Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons bien avancé sur la création. Et là, nous voici dans le paragraphe du catéchisme qui parle de l'homme. Et mon regard saute sur cette expression étonnante, un de corps et d'âme, un, un, de corps et d'âme. L'homme est un de corps et d'âme. Alors ça, c'est le paragraphe 362 du catéchisme qui renvoie au fond cette distinction. D'où est-elle? Le catéchisme lui-même nous dit, eh bien, évidemment, les racines, on les trouve dans la Bible, même si peut-être la manière de parler de l'homme dans la Bible pose des différences avec ce qu'on en dira après, la manière dont on le dira en tout cas.
Oui, c'est sûr qu'entre la Bible hébraïque qui parle de Bachar et de Nefesh, la chair est d'une certaine manière ce qui est l'intérieur de l'homme dans son souffle intérieur, après les évolutions avec soma et psyché chez les Grecs, et puis corpus et anima qui correspondent assez bien chez les Latins, il y a eu toutes des évolutions sémantiques qui seraient trop longues de rapprocher ici dans cette courte émission, mais il y a quelque chose qui demeure, c'est que nous avons quelque chose de très extérieur qui est le corps, qui nous permet de vivre, de communiquer, de nous nourrir, de nous engendrer, de vivre tout ce que nous avons à vivre. Et puis nous avons une âme intérieure qui dirige. Nous nous rendons bien compte que quand quelqu'un meurt, il ne reste plus que le cadavre. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose qui est un centre qu'on appelle le cœur, parfois dans la Bible. Et on se souvient que c'est le lieu d'intériorité à ce moment-là qui est le plus important. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Le cœur est donc un lieu qui correspond vraiment à ce que la Bible veut nous dire de cette intériorité que l'on appelle l'âme et que nous croyons avec toute la grande tradition des siècles de l'Ancien et du Nouveau Testament qu'elle est immortelle et qu'elle passe en jugement. Nous pourrons reprendre plus tard le jugement personnel et le jugement collectif, mais nous savons que l'enjeu est au niveau de ce que l'âme produit dans le corps au instant après instant de la vie. L'âme est forme du corps, dira le Concile de Vienne, dans une expression très forte, en 1312. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que la forme, dans un sens, je dirais, matériel, elle est détermination du corps. Sans âme, le corps se décompose. L'âme est détermination du corps. Et en même temps, elle est acte du corps. Car si le corps dort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en acte. Et c'est quand l'âme se réveille qu'elle lance le corps dans sa vie quotidienne. L'âme est acte du corps et forme du corps. Ce sont des expressions très fortes qu'il faut bien avoir saisies, comme le dit par exemple le numéro 365 du catéchisme. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps, c'est-à-dire c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature, la nature humaine. C'est extraordinaire, Dieu est arrivé, dans le fond, à tenir des éléments qui, a priori, ne semblent pas aller de soi et qui sont promis à la mort si Dieu n'intervient pas à travers la résurrection d'entre les morts.
Et de fait, la référence au livre de la Genèse qui est donnée nous dit bien cette réalité, cette unité, puisque je disais il y a une évolution sémantique, mais Genèse 2:7 cite le catéchisme. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. De fait, on voit bien ce que...
Oui, qu'il y a ces deux éléments, oui, c'est ça.
C'est important, les mots que tu dis sont importants, et finalement, même si on ne les comprend pas forcément dans toute leur profondeur, malgré tout, elle est l'âme et forme du corps, détermination du corps, acte du corps, c'est quand même assez parlant en soi.
Je pense, oui, je pense que quelqu'un même qui n'a pas fait des études approfondies de Bible dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, comprend tout de suite ce langage et voit la grande chance que nous avons d'avoir cette motricité, et en même temps cette motricité dans laquelle il y a une capacité à se mouvoir dans la liberté qui nous est donnée d'un être qui peut aimer, qui est capable d'aimer, qui est capable de vouloir, qui est capable de penser, de raisonner. Et tous ces éléments sont déterminants pour ce que l'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est un peu le moteur de la locomotive, si vous voulez. Et nous avons besoin de cet esprit, que cet esprit soit le plus conscient possible pour bien agir, pour bien aimer, pour bien nous mouvoir aussi, et pour solutionner des difficultés que nous rencontrons, évidemment, dans le cadre de la vie concrète que nous vivons. Et c'est vrai que l'homme est ingénieux. Quand on disait dans une émission précédente qu'il gérait le réel et il gérait la nature, il faut des capacités. Et on reconnaît dans l'homme ses capacités qui sont un don de Dieu.
Alors justement, tu parles de l'esprit. Et le catéchisme souligne bien que l'esprit est à distinguer, ou parfois, dit un article assez théologique, 367, parfois il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit. Ainsi, saint Paul prie pour que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche à l'avènement du Seigneur.
Oui, c'est une expression de saint Paul, je dirais, un petit peu comme il fait souvent, où il accumule les éléments, mais sans nécessairement en marquer toutes les coïncidences. Et c'est un peu comme quelqu'un qui dirait, en décrivant une voiture, la carrosserie, l'ensemble de tout ce qui est transporté dans la voiture, et puis le moteur. En fait, ça ne fait qu'un. Oui. Et c'est un peu une sorte d'énumération successive. Et il ne faut pas opposer une dualité entre l'esprit et l'âme. Le concile de Constantinople IV, qui pour nous est un concile important dans l'histoire de l'Église, enseigne qu'il n'y a pas de dualité dans l'âme.
Et le catéchisme dit, alors, ce qui est éminemment important, esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle. On voit là l'expérience spirituelle, l'expérience surnaturelle de ce que Dieu fait dans l'existence humaine.
Oui, c'est une chose assez extraordinaire, et nous pouvons saluer là l'œuvre du père de Lubac, qui a aidé beaucoup à redécouvrir ces textes de saint Thomas. En particulier quand il le dit à propos des anges, que les anges créés dans leur nature angélique, ont comme destinée une fin surnaturelle. Et nous avons, nous aussi, cette fin surnaturelle. Nous sommes orientés vers cette fin surnaturelle, même si nous n'avons pas les forces nécessaires par nous-mêmes de l'atteindre. Nous avons besoin que Dieu nous ramène à cette fin. Nous sommes sortis de Dieu et nous retournons à Dieu, mais nous ne pouvons pas retourner à Dieu sans l'aide de Dieu. C'est ça qui est le plus difficile à comprendre, parce que nous avons souvent un peu l'impression qu'on doit être doté de ce dont on a besoin pour atteindre le but qui est le nôtre. Or, en fait, ce but surnaturel est tellement mystérieux, tellement caché, tellement au-delà de nos forces, qui est Dieu lui-même. Il nous faut que Dieu nous prenne par la main, un peu, si vous voulez, comme dans les grandes figures de la création. On voit Dieu qui crée Adam, comme dans la chapelle Sixtine, on voit la main de Dieu qui se tend en même temps vers Adam, qui le crée, mais en même temps qui est prêt à le saisir pour le remonter à lui. C'est-à-dire, il veut non seulement le créer, mais le sauver, car sortir de cette condition terrestre dans laquelle on est mortel, il faut comme un élément que l'on appelle la grâce. Il faut quelque chose qui nous dépasse, comme la grâce, pour arriver à passer à ce niveau qui est la divinisation, la déification, comme disaient les pères grecs.
Cela renvoie à notre baptême, qui est une sorte, effectivement, comme si Dieu nous tendait la main, nous qui sommes en train de nous noyer. Oui. C'est un sauvetage qu'il est en train de réaliser, en tendant la main à la bouée de sauvetage.
Et oui.
C'est ça l'acte surnaturel que Dieu...
Exactement. Et déjà, ça nous anticipe sur pourquoi on est obligé de passer par là, sur la chute de l'homme, que nous pourrons étudier plus loin. Qu'est-ce qui a bien pu se faire pour que, eh bien, il faille comme un salut pour arriver finalement à atteindre Dieu, alors que, en fait, nous avons déjà des belles dispositions, je dirais, d'âme. L'homme est capable de comprendre beaucoup de choses, il est capable à partir du réel de remonter à Dieu, il est capax dei, comme on dit, mais voilà, il y a une incapacité qu'il faut expliquer, et seule l'Écriture donne une bonne explication finalement de ce pourquoi de l'homme beau, mais comme fracassé, c'est-à-dire pas capable d'atteindre sa fin tout seul. Beau parce que la création est belle en elle-même, mais fracassé dans ses forces vives pour atteindre cette fin qu'il pressent, vers lequel il tend. Et même quelqu'un qui parfois se suicide, eh bien, a ce désir d'atteindre sa fin.
Avant de terminer notre petit échange, puisque nous avons parlé de ce vocabulaire, notamment voilà, le corps, l'âme, l'esprit, et il y a le catéchisme, mais c'est peut-être important de le rappeler pour les auditeurs qui ont, les croyants qui aiment aussi ce vocabulaire-là, c'est le cœur. On parle beaucoup du cœur, finalement, dans l'expérience spirituelle. La tradition spirituelle de l'Église, dit le catéchisme, insiste aussi sur le cœur, au sens biblique, de fond de l'être, que l'on trouve chez le prophète Jérémie, où la personne se décide ou non pour Dieu.
Oui, le cœur bat, le cœur donne un sentiment supplémentaire outre l'intelligence, puisque dans l'Ancien Testament, le cœur, c'est l'intelligence, mais en même temps, il y a tous les sentiments, je crois, qui passent. Le mot esprit est plus froid, alors que le mot cœur, comme disait le grand Pascal, le cœur a sa raison que la raison ne comprend pas.